VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 15 juin 2017, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, les Mai Mai Charles ont été chassés de Niakakoma par les FRDC.
En Côte d'Ivoire, l'opposition organise ce samedi à Abidjan une marche pour protester contre la situation politique dans le pays après les mutineries à répétition.
Au Maroc, 18 mois de prison ferme pour 25 membres du mouvement de contestation qui secoue Al-Hoseima.
En Somalie, au moins 18 morts dans une attaque de Shebab à Mogadiscio.
Ici à Washington, le député républicain Steve Scalise, blessé par balle hier, est dans un état critique.
Et puis le président Donald Trump, visé par le procureur spécial pour une possible obstruction à la justice dans l'affaire russe, selon le Washington Post.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, les Mai Mai Charles ont occupé hier la cité de Niakakoma avant d'en être chassés par l'armée congolaise. La 34e région militaire au Nord Kivu confirme l'attaque mais ne donne aucun bilan, selon notre correspondant sur place, Charlie Kasereka. Mais des sources qu'il a contactées à Niakakoma parlent d'au moins 13 morts, dont 11 militaires de la force navale, et aussi des cas de pillage par l'armée congolaise. Le porte-parole des FRDC pour l'opération Sokola 2 explique cette attaque par l'offensive menée contre tous les groupes armés dans le parc des Virunga. Ces groupes, a-t-il expliqué, sont en débandade et n'ont plus de nourriture parce que toutes leurs sources d'approvisionnement ont été coupées.
L'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda a affirmé hier devant la Cour pénale internationale avoir aidé à mettre fin au génocide rwandais de 1994. L'ancien chef de guerre congolais prenait la parole hier en tant que premier témoin pour sa propre défense près de 2 ans après l'ouverture de son procès devant la CPI, Jacques Aristide.
Celui qui était surnommé autrefois Terminator a déclaré qu'il était commandant d'un peloton à ce moment-là. « J'ai vu des horreurs », dit-il. « Je me rappelle quand on a mis fin au génocide rwandais, nos supérieurs avaient dit que nous les militaires devions tout faire pour que cela ne se répète plus en Afrique », a encore expliqué Bosco Ntaganda. Issu d'une famille tutsi de 6 enfants, il raconte que ses proches restés au Rwanda ont été exterminés lors du génocide. En septembre 2015, l'ancien chef rebelle avait plaidé non coupable à des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés, dont meurtre, pillage, viol et esclavage sexuel commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, en RD Congo. Né en 1973 au Rwanda, Bosco Ntaganda avait d'abord fait ses armes avec le Front patriotique rwandais après avoir vécu dans les années 1980 dans le Masisi au Nord Kivu où vit une importante communauté rwandophone. D'après la procureure Fatou Bensouda, il était un des commandants les plus importants lors de violences entre Emma et Lindou qui avaient fait près de 60 000 morts.
L'opposition ivoirienne organise ce samedi à Abidjan une marche pour protester contre la situation politique fragilisée par les mutineries de soldats en mai. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le Front populaire ivoirien, dirigé par Pascal Affine-Guessant, appelle à une manifestation pacifique pour dénoncer les mutineries qui ont fragilisé l'autorité de l'État et ont porté un coup à la crédibilité des institutions. Ce parti estime que le pays ne dispose pas d'une armée républicaine, mais plutôt d'une milice composée d'ex-combattants. L'ancien premier ministre Pascal Affine-Guessant déplore aussi une justice aux ordres et la caporalisation de l'administration et des médias d'État. Le FPI, créé par Laurent Gbagbo, traverse une crise. Pascal Affine-Guessant est contesté par Abdourahmane Sangaré, fidèle parmi les fidèles de l'ex-président ivoirien, toujours détenu par la CPI à la Haye.
Au Maroc, la justice a condamné hier à 18 mois de prison ferme 25 membres du mouvement de contestation qui secoue Al-Hoseima dans le nord du royaume. Les détails avec Eric Manirakiza.
Le verdict est tombé hier en fin d'après-midi. Selon l'avocat de la défense, Maître Mohamed Ziane, cette triste décision symbolise un refus patent de tout dialogue et va encore alimenter un peu plus la contestation. Pour lui, ce n'est pas du tout la bonne voie pour sortir de la situation. à la barre des accusés pour atteinte à la sécurité intérieure. Ils étaient 32 jeunes, âgés de 18 à 25 ans. Ils ont été tous arrêtés il y a plus de deux semaines lors de heurts dans la ville d'Al-Olseima. Sept d'entre eux ont comparu libres et ont été condamnés à des peines avec sursis et des amendes. Plus de 80 personnes ont été arrêtées, dont le leader de la contestation Nasser Zefsafi, qui a été transféré à Casablanca en attendant son jugement. La ville d'Al-Oseima est secouée depuis octobre par une grogne populaire pour dénoncer la marginalisation de la région septentrionale du Rif.
Au moins 18 personnes ont été tuées jeudi dans l'attaque de deux restaurants dans la capitale somalienne, Mogadiscio, par des militants islamistes Shebab, a annoncé un porte-parole du gouvernement somalien. L'attaque a débuté par l'explosion d'un véhicule suicide et a visé deux restaurants voisins. L'opération est terminée et les assaillants ont été tués par les forces de sécurité, a affirmé le porte-parole du ministère de la Sécurité. Une source du service somalien de la Voix de l'Amérique affirme que 5 membres des forces spéciales ont également perdu la vie dans des échanges de tirs nourris avec les assaillants, portant le nombre de morts à 24.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le député républicain Steve Scalise, blessé par balle hier, est dans un état critique après chirurgie et pourrait subir d'autres opérations, a annoncé un hôpital de la capitale américaine où il est traité. Jean-Roger Bion.
Le numéro 3 de la Chambre des représentants a été blessé à Alexandrie, en Virginie, dans la banlieue de Washington, en même temps qu'un agent de police, un assistant parlementaire et un lobbyiste. L'assaillant, armé d'un fusil et d'un pistolet, a ouvert le feu sur un groupe de parlementaires américains qui s'entraînaient hier à Alexandria, en Virginie, en vue d'un match caritatif de baseball ce jeudi. Le tueur, un certain James Hodgkinson, âgé de 66 ans, blessé dans une fusillade avec la police, a succombé à ses blessures. On ignore pour le moment le mobile de son crime, mais le FBI vérifie ses contacts ainsi que ses écrits sur les médias sociaux où il vouait aux gémonies le président républicain Donald Trump. Selon le député Jeff Duncan, Hodgkinson l'avait abordé avant de lui demander si les parlementaires qui s'entraînaient étaient républicains ou démocrates. Le suspect était un des bénévoles de la campagne du sénateur Bernie Sanders, qui s'est dit révolté par cet acte abject.
Toujours à Washington, le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, veut maintenant déterminer si le président Donald Trump est coupable d'obstruction à la justice. C'est ce que révèle le Washington Post. Le grand quotidien de la capitale cite 5 officiels, disant que le coordonnateur national du renseignement, Dan Coats, le directeur de la NSA, Mike Rogers, et l'ancien directeur adjoint de cette même agence, Richard Ledgett, avaient tous accepté de parler à M. Mueller. Selon les sources du Post, la phase entrave à l'exercice de la justice a commencé quelques jours après le limogeage de James Comey, l'ex-directeur du FBI, par le président Trump. M. Comey a dit la semaine dernière à la commission du renseignement qu'il est convaincu que son limogeage était lié à son enquête sur l'affaire russe.
Poursuivir à Londres des recherches pour tenter de retrouver les victimes de l'incendie qui a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi une tour de logements sociaux à Londres. Le sinistre a fait au moins 12 morts selon un bilan qui risque fort de s'aggraver. Des 78 personnes hospitalisées, 18 étaient dans un état critique et de nombreuses personnes sont portées disparues. L'origine du sinistre reste inconnue, mais la colère montait parmi les résidents qui pointaient des défaillances à répétition.
Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, a indiqué hier qu'il comptait présenter, d'ici quelques semaines, au président Donald Trump, une nouvelle stratégie pour l'Afghanistan qui tranchera la question d'éventuels renforts américains réclamés par les chefs militaires américains en Afghanistan et dans la région. Cette administration ne répétera pas les erreurs du passé. Nous ne pouvons pas laisser l'Afghanistan devenir de nouveau un point de départ d'attaques contre les États-Unis et leurs alliés, a souligné le ministre de la Défense, en faisant allusion notamment aux attentats du 11 septembre. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jean-Roger Dion.
Sénégal, la compagnie minière Avenira veut accroître la capacité de production de sa mine de phosphate de baobab D'après l'agence ECOFIN, la mise en œuvre de ce plan va nécessiter un investissement de plus de 17 millions de dollars australiens. Au cours d'une première phase, une usine de flottation sera ajoutée à l'usine de traitement pour augmenter le taux de récupération de phosphate actuellement de 50 à 70%. La deuxième phase portera sur la construction d'une seconde ligne de production d'une capacité de 1 million de tonnes, ce qui va augmenter à 1,5 million de tonnes la capacité annuelle du projet. La Guinée veut lancer son premier cycle d'octroi de licences pétrolières et gazières, c'est ce que rapporte l'agence ECOFIN, citant l'Office national du pétrole. D'après Offshore Energy Today, le cycle sera ouvert pendant 6 mois à partir d'octobre 2017 et les résultats seront disponibles courant octobre 2018. La Guinée ayant actuellement une plateforme active dans ses eaux, les autorités espèrent que ce sera le premier succès commercial de son pays en matière de forage de pétrole. L'Allemagne appelle l'ONU à créer un fonds permanent de 10 milliards d'euros pour répondre rapidement aux crises humanitaires récurrentes. En marge d'une réunion à Berlin entre investisseurs et dirigeants africains, le ministre allemand du Développement a expliqué que ce fonds sera alimenté par les pays membres en fonction de leurs capacités financières.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le championnat à peine fini, on reparle de la NBA.
Et oui, l'un des copropriétaires des Golden State, Joe Lacob, a assuré hier que son équipe ferait tout ce qu'il faudrait pour conserver le meneur Stephen Curry, qui arrive en fin de contrat avec le nouveau champion NBA. Curry, 29 ans, sera pour la première fois de sa carrière unrestricted free agent, c'est-à-dire qu'il sera agent libre et qu'il peut rejoindre une autre équipe à partir du 1er juillet. Mais voilà, Golden State est, selon la convention collective régissant la NBA, l'équipe qui peut lui proposer le meilleur contrat avec, tenez-vous bien, 205 millions de dollars sur 5 ans. Curry, on le rappelle, a été élu meilleur joueur de NBA en 2015 et 2016. Il a fait toute sa carrière avec les Warriors et n'a jamais pour l'instant laissé entendre qu'il voulait partir. Golden State qui a remporté, vous le savez, lundi, son deuxième titre de champion NBA en 3 ans en dominant LeBron James et les Cavaliers de Cleveland. 4 victoires à 1.
Football, côté justice, et Ronaldo dit avoir la conscience tranquille.
Cristiano Ronaldo, accusé d'évasion fiscale à hauteur de 14,7 millions d'euros, a affirmé hier avoir la conscience tranquille face au risque de poursuite pour fraude qui pèse contre lui en Espagne. Avant de s'envoler hier vers la Russie pour disputer la Coupe des Confédérations avec le Portugal, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers s'étaient entraînés près de Lisbonne. On rappelle que son club, le Real Madrid, lui a apporté son soutien hier, se disant convaincu de la totale innocence du Portugais.
Pas assez d'entraîneurs noirs dans le football anglais?
Ah oui, c'est ce que pense la seule femme noire au sein de la direction de la Fédération anglaise de football, Heather Rabatt, qui se dit frustrée par ce manque de diversité. La saison prochaine, seul un entraîneur noir se retrouvera sur le banc d'une équipe de Première Ligue, le championnat le plus cher et le plus médiatisé au monde. Il s'agit de Chris Hutton, l'entraîneur de Brighton, qui avait lui-même en janvier déploré le manque de diversité parmi ses confrères et évoqué un véritable souci.
On reste en Angleterre où le calendrier de la Première Ligue a été dévoilé.
Effectivement, la course à la succession de Chelsea commence le week-end des 12 et 13 août prochains. Le seul duel notable de la journée d'ouverture va opposer à l'Emirates Stadium Arsenal à Leicester, champion 2016. Le premier choc, lui, aura lieu lors de la deuxième journée puisque Chelsea, champion en titre, ira chez son dauphin Tottenham pour un derby londonien délocalisé à Wembley en raison de la construction du nouveau stade des Spurs.
Tennis, Nadal forfait après son 10e titre à Roland-Garros.
Eh oui, l'Espagnol Rafael Nadal, tout juste auréolé d'un 10e sacre à Roland-Garros, a annoncé qu'il n'allait pas disputer le tournoi sur herbe du Queens lundi prochain, et ce pour se reposer en vue de Wimbledon. Nadal sort une saison pleine sur terre battue avec des victoires à Barcelone, Madrid, Monte-Carlo et enfin Roland-Garros. Et par ailleurs, ce résultat, Roger Federer a été battu par l'Allemand Tommy Haas, 39 ans et 302e joueur mondial, et ce seulement en 3 petits sets hier à Stuttgart. Le score 2-6, 7-6, 6-4. Une mauvaise nouvelle pour le Suisse, âgé de 35 ans, qui avait fait l'impasse sur toute la saison sur terre battue pour préparer Wimbledon. Il n'avait plus joué depuis sa victoire en finale du tournoi de Miami. C'était le 3 avril dernier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Mali et, nous vous le disions hier, perturbation mardi sur les réseaux sociaux, singulièrement Facebook. C'est ainsi que pendant 24 heures, les usagers de Facebook n'ont pu accéder à leur compte. Le gouvernement, à travers la GTIC, explique ce problème par un souci technique, plus précisément, je cite, « une segmentation du câble ». En tout état de cause, la panne en question a causé beaucoup de désagréments chez les utilisateurs de Facebook. Kassim Traoré est allé à la rencontre de certains d'entre eux.
C'est à la surprise générale qu'il y a eu une interruption des réseaux sociaux au Mali. Ce sont les usagers de Facebook qui ont souffert le plus, à l'image des Anakoné, techniciens des radios.
D'abord, on a été surpris. Moi, personnellement, j'ai été surpris. Je veux me connecter, je n'arrive pas. J'ai cru que je n'avais pas de forfait, j'ai vérifié, tout allait bien. Et apparemment, on est coupé. J'ai essayé parce que je n'avais pas grand-chose à faire. Donc, je vais retrouver les amis pour papoter un peu. Et impossible. Il n'y a pas de solution. Si on est en train de commencer une dictature, peut-être, on ne sait jamais, mais ça nous surprend quand même. En démocratie, quand même, il ne faut pas faire ça. Il faut rectifier ça le plus vite possible.
Nana Khadija est une jeune dame qui fait la mise en ligne des informations sur des sites. Elle trouve qu'il y a trop de faux messages sur Facebook.
Facebook, ça ne voulait pas se connecter. Eh bien, j'ai commencé à demander mes amis eux aussi. Ils disaient que voilà, Facebook est coupé, il n'y a plus de connexion et tout. Ce n'est pas encore venu. J'ai essayé de me connecter avec mon ordi, ça fonctionnait. Quand je suis sortie, j'ai voulu me connecter avec mon phone et non, ça ne passait pas. Pour moi, c'est à cause que les gens n'arrivent pas d'essayer, je peux dire, de faire des propagandes sur les histoires de constitution et tout ça. On ne va pas aller voter, ils nous cassent la tête avec les histoires de constitution.
Étienne Ngaré est journaliste stagiaire. Il lit l'interruption à la pré-campagne référendaire de juillet prochain.
Cette interruption est causée parce que si ces réseaux-là, les jeunes arrivent à s'informer concernant la marche qui doit se tenir le samedi prochain. Et puis aussi, il y a une question de révision constitutionnelle aussi. Je pense que c'est tous ces trucs-là qui sont à la base de cette perturbation. Et puis on a vu aussi le gouvernement malien sent qu'il y a un mouvement qui se prépare face à leur pouvoir, ils font de sorte que les jeunes arrivent à s'informer davantage.
Côté technicien en informatique, il y a eu plus de peur que de mal, parce que ceux-ci ont trouvé une alternative à ces interruptions. Patrick Thiès, informaticien et webmaster.
Donc la risque que plusieurs jeunes ont posé pour contourner cette conscience, c'est d'utiliser en fait des outils, des logiciels le plus répandu, c'est CloudVPN, qui est un logiciel bien connu dans le domaine, que plusieurs on peut pouvoir voir sur l'ordinateur, sur le téléphone, n'importe quel terminal. En fait. Voilà, c'est une plateforme que tout le monde utilise pour communiquer, ceci soit des paliers, des entreprises, des organisations. Ça mélange un peu le boulot des hommes, quoi.
Pour ceux qui font le e-commerce, il y a eu des perturbations, un manque de clients. Tel n'est pas le cas pour les jeunes activistes qui se mobilisent contre les référendums.
Ce n'est pas la première fois. On a vu qu'avec le jugement de Razbach, le réseau Facebook a été bloqué durant deux jours. Il y a d'autres réseaux tels que WhatsApp et consorts. Avec ces réseaux-là, on arrive à s'informer. Et puis au niveau des gains aussi. Et puis avec les réseaux de télécommunications aussi, on s'envoie des SMS pour faire passer les informations. Même si le bloc Facebook, avec les autres réseaux, ça va aller.
Le gouvernement malien, à travers son agence chargée de nouvelles technologies de l'information, parle d'un souci technique, une segmentation du câble au niveau international. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée, la prolifération des eaux minérales préoccupe les services en charge du secteur de l'eau à la consommation. Certaines eaux sont commercialisées sans aucune autorisation. La grande offre de sachets d'eau commence à susciter des doutes à Conakry, comme nous le dit notre correspondant, Zakaria Camara.
À l'Office national de contrôle de qualité, on est à la recherche d'équipements performants et de moyens logistiques. Ici, le nombre croissant des unités de production d'eau en sachet s'explique.
Ce que nous voulons, un papier d'une autorité qui autorise. On ne peut pas dire, ah, il ne doit pas. Mais s'il y avait un décret pour
faire habiliter un seul département pour délivrer ces papiers, soi-disant l'autorisation de mise en consommation. Il n'y a pas de problème pour ça.
Zakaria Touré est le directeur général de l'Office national de contrôle de qualité. Selon lui, toutes les analyses ne donnent pas le même résultat. Certaines eaux sont impropres à la consommation.
Tous les échantillons d'eau analysés par nous, si ce n'est pas bon, on ferme la production et les intéressés viennent demander nos expériences pour qu'on vienne les aider à améliorer la qualité de leur eau.
Des sachets d'eau, il y en a dans toutes les boutiques à Conakry et des vendeurs à la sauvette dans les rues. Difficile de chiffrer avec exactitude le nombre d'unités de production dans la capitale. Plus de la moitié des unités de production dont les sachets sont commercialisés évoluent dans la clandestinité. Ibrahim Djané, directeur général du Fonds de l'hydraulique.
Pour ce qui concerne Conakry et périphérie, effectivement, avec nos recensements de routine, nous avons pu recenser une cinquantaine de sociétés d'eau minérale. Parmi ce lot, il n'y a qu'une vingtaine qui sont repérés, c'est-à-dire qui sont localisés, qu'on a identifiés et qu'on sait où se trouve leur siège, où se trouve leur unité de production.
Dans la capitale, certains Guinéens commencent à se poser des questions sur ces eaux en sachet.
Il y a un autre voisin là-bas, il avait fui une forage chez lui. Actuellement, il emballe de l'eau là-bas et il revend dans la capitale comme si c'est l'eau minérale. On ne sait pas s'il est à règle ou pas. On ne sait pas si c'est minéral ou pas.
Pour vendre plus les sachets d'eau, de nombreuses unités de production ont choisi les noms de quartiers ou celui des villes, une démarche marketing qui vise à intéresser plus d'habitants de ces localités. Conakry, Zakaria Camara pour VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux des services d'urgence en Afrique. Du Sénégal au Cameroun, les problèmes se ressemblent. Taux de mortalité, manque de matériel et prise en charge des services d'urgence des hôpitaux en ville ou en province. Pourquoi tant de mortalité? À quoi ressemblent les formations des urgentistes? Quelle politique de santé pour gérer les urgences? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Les représentants de nombreux pays africains sont réunis cette semaine ici à Washington dans le cadre de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Ce programme porte entre autres sur l'expansion et l'approfondissement des relations commerciales et les possibilités d'investissement avec l'Afrique subsaharienne. John Linden s'est entretenu avec Koum Hassan, ministre centrafricain du commerce et de l'industrie.
Ça fait une très très bonne chose pour la Centrafrique d'être aujourd'hui parmi les pays éligibles à l'AGOA. Et vous vous rendez compte le plaisir ou soit l'honneur que nous avions pour être là aujourd'hui parmi tous les pays du monde qui sont adhérés au processus de l'AGOA.
Alors mais concrètement, qu'est-ce que la Centrafrique peut vendre aux États-Unis?
Nous sommes un pays énormément riche sur le plan agricole, par exemple. Il y a le café, il y a le cacao, il y a le coton et que sais-je encore. Et donc, sur ce plan, nous pouvons développer beaucoup de choses avec les États-Unis d'Amérique. Par exemple, dans la ville de Bambari, nous avons des artisans qui confectionnent des chaussures traditionnelles. Et ça, c'est aussi un exploit qu'on peut mettre à profit. Nous avons la culture, par exemple, les différentes sortes de cultures vivrières qu'on peut aussi exploiter avec les différentes entreprises.
S'il y a des Centrafricains qui sont intéressés, quelles sont les procédures à leur niveau?
Je pense que nous sommes le département le mieux indiqué, le département du commerce qui a cette relation directe avec le département du commerce américain. Et dans ce cas de figure, il va falloir que ces entrepreneurs ou soit les commerçants qui veulent s'intéresser à avoir une relation directe avec les entreprises américaines n'ont qu'à à nous saisir et nous allons faciliter cette voie, cette relation avec ces entreprises américaines.
Qu'est-ce qui vous a marqué depuis que vous êtes ici et que vous discutez avec les ressortissants des autres pays qui participent à ce programme?
Je suis fasciné. Je vous le dis que franchement, on est un peu en retard. Et là où nous sommes, je pense que le ministre conseiller Koba peut en témoigner. Nous avons avec lui rencontré beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui se sont intéressés énormément à notre pays. Et aujourd'hui, notre retour sur la scène international en matière commerciale va nous donner beaucoup d'opportunités. Et là, aujourd'hui, tel que tout à l'heure, nous avons fait quelques interventions sur les opportunités d'affaires en Centrafrique, j'avoue que beaucoup des investisseurs se sont intéressés. Et là, aujourd'hui, je pense que nul n'a besoin de douter de la richesse que la Centrafrique possède et que nous devons mettre ça à profit.
Koum Hassan, ministre centrafricain du commerce et de l'industrie.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
La Zambie se dirige-t-elle vers la dictature? C'est la question que se posent des observateurs au vu des derniers événements dans ce pays. Le Parlement zambien a suspendu mardi 48 députés de l'opposition pour avoir boycotté un discours du président Edgar Lungu. Le chef de l'opposition attend en prison son procès pour trahison. Un survol de la situation avec Jacques Aristide.
Les élus du Parti Uni pour le Développement National ne seront pas autorisés pendant un mois à entrer dans l'hémicycle et ne recevront pas leur salaire. Justifiant sa décision, le président du Parlement a accusé ses députés d'avoir commis une faute grave en boudant le discours du chef de l'État devant le Parlement en mars dernier. Patrick Matsibini les a sommés de reconnaître la victoire électorale d'Edgar Lungu en août dernier ou de démissionner, le porte-parole de l'opposition Charles Kakoma.
En vertu de notre constitution, les députés jouissent de la liberté d'expression, ce qui inclut le silence ou l'absence, ou encore ne peuvent pas assister aux travaux parlementaires en guise de protection. Cela fait partie de leurs droits constitutionnels.
L'affrontement politique remonte à la présidentielle de l'an dernier. Rival d'Edgar Lungu, l'opposant historique Haikande Hichilema conteste les résultats, jugeant la réélection de Lungu frauduleuse et illégitime, malgré sa validation par la Cour constitutionnelle. La spectaculaire arrestation du leader de l'opposition est survenue en avril dernier. Il est accusé par le pouvoir d'avoir entravé le déplacement d'un convoi du chef de l'État. Haikande Hichilema est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Mukobeko et attend l'ouverture de son procès devant la haute cour de Lusaka. Inculpé de trahison, un crime qui interdit sa libération sous caution, il risque de 15 ans de réclusion à la peine de mort. L'opposition et la société civile affirment que sa détention est politiquement motivée. Charles Kakoma.
Je l'ai visité hier et c'est terrible. Les conditions dans lesquelles il est incarcéré sont humiliantes. Elles sont inférieures à la norme et aucun être humain ne peut être assujetti à de telles conditions.
Des observateurs s'inquiètent de la dérive autoritaire du régime Lungu. Des ONG comme Amnesty International condamnent les récents événements et doutent de la légalité de la suspension des élus de l'opposition. Même la conférence des évêques catholiques de Zambie a fait une sortie hier. Pour elle, le pays se dirige vers la dictature.
Salut les amis, Roger Muntou de RM Show en direct de Washington DC sur VOA Afrique. Notre sujet de cette semaine, l'influence des parents dans le couple. Ah oui, un sujet très très important. Ne ratez pas cette émission les amis, vos opinions en direct, ce sera au 001-202-205-2633. Encore une fois, 001-202-205-2633 ou alors vos messages WhatsApp ou Viber au 001-703-350-3731. Vous allez aussi nous regarder et suivre en live sur Facebook Live VOA Afrique. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.